affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Dans notre émission de ce jour, il sera question de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly. En effet, si Chantilly est connu comme un édifice, un parc et un musée magnifique, le fameux musée Condé, correspondant au vœu du duc d'Aumale, son dernier propriétaire privé, d'ouvrir au public ses collections, on sait moins que Chantilly abrite aussi l'une des plus belles bibliothèques de France et qu'Aumale, dans ses dernières volontés, avait souhaité que ces trésors soient également mis à la disposition du public, en la personne des chercheurs. Canal Academy ne pouvait que rappeler cette saine volonté de diffuser les savoirs, d'autant qu'actuellement, deux expositions reflètent précisément cette volonté. L'une, intitulée « D'or et d'argent », est consacrée aux décorations et ordres de chevalerie des propriétaires du château, les Bourbons, les Condés et les Orléans. L'autre exposition, directement issue du fonds d'archives, est intitulée « Aumale secret, archives inédites de Chantilly ». Elle dévoile des aspects méconnus de la vie du duc d'Aumale. Pour évoquer cette exposition, et surtout plus globalement cette bibliothèque, dans le cadre d'une série d'émissions consacrées aux bibliothèques rattachées à l'Institut de France, nous avons la chance d'accueillir dans nos studios Olivier Bosque. Olivier Bosque, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans nos studios. Vous êtes conservateur en chef de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser une question plus centrée sur le duc d'Aumale. En effet, lorsqu'on entend ce nom célèbre de l'histoire de France, on pense de prime abord aux politiques, aux militaires, car c'était un grand militaire, ou au créateur du musée Condé, un homme qui avait le goût des arts, mais moins aux bibliophiles.
Oui, le duc d'Aumale est très certainement le plus grand bibliophile de son temps. Alors c'est un aspect des choses qui est peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi un oubli relatif, qui est un petit peu aussi celui du duc d'Aumale en général. Je ne sais pas sur tous les visiteurs que nous accueillons à Chantilly, on accueille pas loin de 400 000 tous les ans, combien connaissent, je dirais, par le menu ou précisément la vie d'Aumale. Et je dirais que la bibliothèque est aussi un point d'entrée important pour expliquer, je dirais, ce duc d'Aumale, donc ami des arts, avec une vie politique, effectivement militaire, très, très importante, mais qui est aussi...
Il faut rappeler, pour ceux qui l'ignoraient, que le duc d'Aumale a vécu donc, au XIXe siècle, qui est un siècle des plus troublés au plan institutionnel en France, et qui donc il a connu une multitude de changements de régime, ce qui explique sa vie mouvementée.
Voilà, et je pense que même sa passion pour le livre, c'est un effet direct... Donc, une conséquence seconde de la révolution de 1848. À l'époque, le duc d'Aumale donc, est le fils du roi des Français, Louis-Philippe. Et c'est un personnage en vue, il fait partie naturellement de la famille royale. Il s'est illustré en Algérie dans le cadre d'un événement historique qui est la fameuse prise de la Smalade Abdelkader, qui est véritablement un coup de main, quelque chose de très courageux, de très inattendu qu'Aumale a mené lui-même. Et ensuite, il est devenu, en tout cas c'est le poste qu'il occupe au moment de la révolution de février 48, le poste de gouverneur général de l'Algérie. Donc la révolution arrive, toute la famille, les Orléans sont condamnés à l'exil, lui y compris. Et Aumale a une place un petit peu particulière dans sa famille, parce que certes il appartient à cette famille royale, mais il s'en distingue, alors pas par son rang de naissance, c'est quand même un cadet, hein, ce n'est pas l'aîné des fils de Louis-Philippe, mais il a été l'héritier en fait, du dernier des Condés, des Bourbons-Condés, le prince de Bourbon-Condé, qui est décédé donc en 1830, et qui était en fait le parrain du duc d'Aumale. Louis-Philippe, dans un esprit de réconciliation entre les deux branches, la branche aînée des Bourbons et la branche cadette, a souhaité, par différents signes, manifester ce rapprochement. Et de façon, alors certains diront que c'était très adroit au plan, je dirais, financier, économique, parce que le prince de Bourbon est à l'époque un homme extrêmement riche, qui n'a pas de descendance directe, et faire donc du duc d'Aumale, qui à l'époque est encore tout petit, le filleul du duc de Bourbon, c'est aussi en faire, je dirais, l'héritier de son immense fortune. Et donc Aumale, en 1848, c'est un homme très riche. C'est un homme qui s'est illustré, je dirais, qui a créé une des plus belles pages de l'histoire de France. Et en 1848, il se retrouve en exil en Angleterre avec le reste de la famille. Et naturellement, il n'est pas possible pour lui de revenir en France. Même sa propriété de Chantilly, toutes ses richesses, ses trésors sont contestés. Ses biens sont mis sous séquestre. Et c'est à ce moment-là que sa passion pour le livre, la bibliophilie, s'affirme. Bon, je ne veux pas faire de la psychanalyse sauvage, mais on pourrait tout à fait comprendre que, je dirais, le vide créé par cet exil, la fin de cette vie brillante et en vue, ait eu besoin d'être rempli par autre chose. Et donc, Aumale devient un collectionneur de livres. Alors, Aumale est un grand collectionneur. Quand on dit qu'Aumale est le plus grand bibliophile de son temps, bon, on peut utiliser ces formules de façon un petit peu rapide, mais c'est vraiment le, vraiment
c'est
le cas.
C'est vérifié dans les faits.
Voilà, c'est vérifié dans les faits. Et Aumale, je dirais, a trois grandes qualités en tant que collectionneur. D'abord, il a, je dirais, il agit dans un moment tout à fait stratégique. Il commence à constituer sa collection dans un moment tout à fait stratégique, car la Révolution française constitue un moment très important, en général pour l'histoire des bibliothèques, parce que c'est la naissance de la plupart des bibliothèques publiques que nous connaissons aujourd'hui, et ça constitue surtout un immense mouvement de livres, c'est-à-dire que les livres, qui étaient soit la propriété de familles aristocratiques, soit qui étaient conservés dans les communautés religieuses, eh bien ces livres sont dispersés, les communautés sont dispersées, les bâtiments sont vendus, et donc il y a énormément de livres sur le marché, de livres parfois très anciens, et donc Aumale, donc en gros il est actif dans un moment où il y a des choses incroyables, très précieuses, très rares sur le marché. Deuxièmement, c'est un personnage qui, souvent le collectionneur, est quelqu'un qui est complètement un petit peu envahi par son obsession, son propre goût. Aumale est quelqu'un qui, à ce titre-là, sait se faire conseiller, sait se faire entourer. Bon, bien sûr, il a reçu une éducation très solide. Il a un goût artistique, un penchant artistique très marqué, j'y reviendrai. Et puis aussi, il sait se faire conseiller. C'est-à-dire qu'il a des agents un petit peu partout en Europe qui repèrent, lorsqu'il y a une vente aux enchères, les biens ou les livres importants, qu'il lui signale.
Lui, donc, vous voulez dire qu'il n'est pas dans une lubie, mais il poursuit un dessein raisonné.
Oui, alors, c'est la démarche de collectionneur d'Aumale est une démarche, on pourrait, si on était un peu cruel, on pourrait la qualifier de scolaire. Hein. Il a pris le manuel de biographie de Brunet, et puis il a rempli un petit peu les cases, mais je dirais que ce que je décris là, c'est ce qui fait d'Aumale le très grand collectionneur qu'il a été, le très grand collectionneur de livres, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui sait se faire conseiller, qui sait tout de suite rapproché de savants, il dialogue beaucoup avec les bibliothécaires de la British Library, également avec les bibliothécaires de la Bibliothèque Nationale, et donc c'est des gens qui le conseillent, c'est des gens qui l'aiguillent. Donc il n'est pas convaincu de tout savoir, et c'est quelqu'un qui sait écouter, ce qui est assez rare pour quelqu'un qui est quand même à la base un militaire et le fils d'un roi. Donc voilà, c'est une intelligence qu'on... Voilà, je ne dis pas que la plupart des collectionneurs sont idiots, bien au contraire.
Mais ils sont apportés par la passion.
Voilà, disons qu'il y a une ouverture très grande. Et puis surtout, Aumale est très riche, puisque un des effets à la fois de l'exil auquel il est condamné et de l'interdiction qui lui est faite par la Seconde République, plus exactement par Louis-Napoléon Bonaparte, il y a une interdiction qui est faite à tous les membres de la famille des Orléans de posséder des biens mobiliers et immobiliers en France. Donc il vend notamment les domaines. Alors il s'arrange pour vendre Chantilly à un prête-nom pour pouvoir le récupérer après. Mais donc il se retrouve à la tête, au lieu d'avoir des propriétés foncières très coûteuses avec des personnels à entretenir, des bois à nettoyer, il se retrouve à la tête de sommes en numéraire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va acheter des actions, ce qui va en faire de lui un capitaliste et un homme encore un peu plus riche. Et il va acheter des objets de collection. Et dans un dessin, alors j'étais peut-être un peu dur en disant qu'effectivement il était un petit peu dans les rails de ce que demandait ou ce que proposait un manuel de biographie à l'époque. Mais je pense qu'au-delà, et ça c'est, si on veut comprendre Chantilly est un lieu absolument superbe, qui conserve la deuxième collection de peintures après le Louvre. On a quand même trois Raphaël à Chantilly. Bon, il y a des choses tout à fait remarquables. C'est qu'Aumale à Chantilly poursuit un dessin. Il est presque même un petit peu prisonnier de ce manifeste qui veut faire de Chantilly une espèce d'hommage à l'art français, à la grandeur peut-être de ce qu'aurait pu être la France si les Orléans étaient restés sur le trône. Par contre, lorsqu'il constitue sa bibliothèque, certes, il veut également œuvrer dans ce sens, illustrer toutes les richesses, toutes les beautés dans le domaine du livre, mais il est beaucoup plus libre, je pense, que dans ce dessin qui a conduit à la constitution de Chantilly, à faire de Chantilly ce qu'il est aujourd'hui. C'est un échange que j'ai eu avec le président du Collège des conservateurs, Marc Fumaroli, puisqu'aujourd'hui, Chantilly bénéficie, du regard de trois membres des compagnies académiques, de dire qu'effectivement, Aumale avait peut-être un goût, peut-être, toute proportion gardée, un petit peu inférieure à des grands collectionneurs de son temps, que ce soit les Camondeau et d'autres. Mais le domaine véritablement où Aumale s'exprime, c'est sa bibliothèque.
C'était central dans son dessin.
Central et aussi éminemment personnel. Hein, parce que les choix qu'il fait, les choix de livres, certes, il est à la recherche de l'excellence, de l'exigence. Tous les livres que nous avons dans le fameux cabinet des livres, qui est vraiment le cœur précieux de la collection, sont des ouvrages d'une très, très, très grande qualité, pour certains véritablement uniques au monde. Et leur concentration en ce lieu est tout à fait remarquable. Mais Aumale était, je pense, dans sa passion pour le livre, il s'est vraiment exprimé, il s'est vraiment libéré.
Ce qui est curieux, c'est que lorsque vous parliez de sa volonté de rassembler tous ces volumes et de conserver toute une mémoire, que vous rattachiez à cette volonté de manifeste, on pressent déjà comme une sorte d'entreprise à vocation publique, qui a vocation à être partagée. On ne le pressent pas comme une sorte de jardin secret dans lequel il pourrait s'exprimer en vase clos, retrouver un monde plus conforme à ses propres goûts. On sent qu'il y a une volonté d'emblée de conservation et de diffusion des savoirs. Est-ce que c'est exact ?
C'est très juste, d'identifier chez Aumale un projet. On peut considérer qu'Aumale, né dans la première partie du XIXe siècle, est un homme du passé. Aumale est un homme éminemment moderne. Ça, c'est le premier trait de son caractère. Dans sa passion pour les technologies, lorsqu'il fait ses bibliothèques, il emploie les meilleures techniques du temps. Et je pense que dans ce domaine-là, il est également précurseur. Bon, il faut se représenter ce que sont les musées et les bibliothèques au milieu du XIXe siècle. Ce sont des lieux, pour la plupart, récents. Quand on parle des musées de l'histoire de la Bibliothèque nationale ou du Louvre, ce sont finalement des produits de la Révolution qui sont encore très jeunes au milieu du XIXe siècle. Aumale, effectivement, fabrique à Chantilly, quelque part, le prototype du musée public. Alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que c'est un musée, par les conditions du legs qu'il a fait à l'Institut de France, qui est resté fixé. Donc, c'est un petit peu le musée muséifié. Mais en son temps, c'était effectivement une institution, une démarche qui était tout à fait précurseur dans ce qu'on a pu ensuite connaître dans d'autres institutions culturelles et dans le développement culturel tel qu'on l'a connu au XXe siècle. Bon, alors Aumale, il n'a pas créé une bibliothèque ouvrière à Chantilly, mais il a quand même souhaité, ouvrir...
Ça rayonne.
Oui, absolument. Il a souhaité, à la fois, je pense qu'il y a un dessin aussi qui consiste à poursuivre. Je pense que Aumale est celui qui ressemble le plus à son père. Hein. Ce respect profond de la vie humaine, cette ouverture aux beaux-arts. Louis-Philippe a fait beaucoup de choses sous son règne. D'ailleurs, il est amusant de voir que dans la bibliothèque de Chantilly, il y a un des piliers de notre bibliothèque. C'est une collection qui s'appelle la collection Standish. Standish était un collectionneur de livres qui avait souhaité léguer à la France, un tout petit peu avant la Révolution de 48, sa collection. Il est décédé, le legs n'a pas été au bout, et c'est Aumale qui a racheté en définitive la collection Standish et qui l'a ensuite installée à Chantilly à son retour d'exil en 1871. Donc je crois que Chantilly est peut-être un petit peu l'ancêtre des grands musées et des grandes bibliothèques publiques. C'est juste de le voir de cette façon.
Alors parlez-nous de ce fameux cabinet des livres. Que contient-il comme volume, leur nombre, comment se distribuent-ils? Est-ce que cette bibliothèque est... Bon, on a compris que le duc d'Aumale en était principalement le créateur, mais n'est-il pas aussi un héritier? J'imagine que ses prédécesseurs au sein de Chantilly devaient quand même d'ores et déjà posséder une bibliothèque.
Alors, je suis sûr que parmi les amis du livre qui nous écoutent, certains sont déjà allés à Chantilly, donc je n'ai pas avoir beaucoup de peine à les convaincre que c'est un lieu proprement unique, sans doute au monde. Le cabinet du livre, c'est avant tout une des pièces du château. C'est la pièce dans laquelle Aumale a rassemblé ses livres de collection. Alors là aussi, c'est un paradoxe, parce que ceux qui fréquentent les bibliothèques le savent bien. En général, la réserve des livres rares, c'est un lieu secret, c'est un lieu retiré, c'est un lieu où il faut montrer patte blanche pour pouvoir accéder. Là, il est offert à tous, dans le cadre de la visite du château. C'est une pièce absolument magnifique, et c'est véritablement, je dirais, la plus haute expression de l'amour du livre, en tout cas chez un homme. Et elle se manifeste, moi j'ai toujours coutume de dire que le cabinet des livres, c'est à la fois chacun des livres conservés dans le cabinet des livres est un trésor, et la somme de tous ces livres forme un trésor absolument remarquable. C'est ce kaléidoscope, tous ces...
Le lieu aussi.
Oui, le lieu, alors c'est un lieu que Aumale a pensé, hein, je dirais, dans le détail. Alors quand on pénètre dans ce lieu, qui n'est pas un lieu très grand, mais qui est tapissé au total donc, de 13 000 livres sur deux niveaux, il y a vraiment une émotion qui vous saisit. Hein. C'est une émotion à la fois esthétique, parce que c'est un lieu qui est, je dirais, véritablement construit, pensé pour être beau, et comme je le disais, pour être à la fois un écrin individuel pour chacun de ces livres, mais la somme de tous ces livres assemblés forme à son tour un magnifique joyau et trésor. Donc on y conserve en fait les livres les plus précieux, les plus rares, donc des livres dont, que pour certains, Aumale a hérité de livres. Hein. Je l'ai dit, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il était l'héritier du duc de Bourbon. Il a donc pu hériter des livres, je dirais, de la collection, entre guillemets, de famille. Bon, les Condés et puis les Bourbons Condés sont des personnages tout à fait incontournables de l'histoire de France. Comme toutes les grandes familles, ils ont accumulé et assemblé des livres. Livres qui ont été saisis en même temps que leur propriété à la Révolution. D'ailleurs, à ce titre, j'ai une petite anecdote amusante. Quand j'ai pris mes fonctions à Chantilly, auparavant, je travaillais à la Bibliothèque nationale de France, et Jacqueline Sanson, qui était à l'époque le directeur général de la BNF, me dit « Ah, vous allez à Chantilly. À Chantilly, vous avez des livres à nous. » Parce que dans sa mémoire, il y avait les livres qui, pendant peut-être 10 ou 12 ans, avaient été saisis au moment de la période révolutionnaire, transportés à Paris et qui avaient été restitués en 1814 aux Bourbons. Et donc, Aumale, alors là, il y a vraiment déjà un noyau de livres très, très important. C'est un petit peu un des points forts de la collection. On a environ 1500 manuscrits enluminés, donc des manuscrits à peinture, des manuscrits médiévaux, qui sont très importants, qui forment là aussi un ensemble très conséquent. Alors la tradition veut que nous soyons la deuxième collection de peinture après le Louvre. Et pour le livre, nous sommes la deuxième collection de manuscrits enluminés après la Bibliothèque nationale de France. Et donc voilà, c'est quand même assez rare d'avoir dans un monument historique une concentration aussi forte de livres. Donc ça, à peu près quelques milliers de manuscrits enluminés.
Pour illustrer et incarner un petit peu votre propos, on peut peut-être préciser que notamment sont conservés là un ouvrage fort connu, Les Traits Régisseurs du duc de Berry.
Oui, c'est effectivement le manuscrit, le livre le plus connu de Chantilly. C'est celui que, lorsque les visiteurs franchissent la grille du château, ils disent est-ce qu'on peut voir les Traits Régisseurs? Alors là, c'est à la fois le malheur et le destin de ce genre de chef-d'œuvre de ne pas pouvoir être visible.
C'est votre Joconde, en quelque sorte.
Absolument. Et alors, c'est une Joconde qui est là. Alors, j'évoquais tout à l'heure le spectacle que constituait le cabinet des livres. Si je puis dire, le point aveugle, pour employer un terme cher au marxiste de la collection, c'est les Traits Régisseurs du duc de Berry, parce que, bon, naturellement, on ne peut pas montrer en continu un document aussi précieux. C'est très certainement le manuscrit à la fois le plus célèbre et le plus beau qui ait été produit. Il est mondialement connu. Il illustre aussi, je dirais, la vraie capacité et le vrai talent de collectionneur d'Aumale. Parce que c'est un livre qu'Aumale achète dans les années 1850. Donc c'est pas un livre qu'il hérite. Hein. C'est un livre qui lui est signalé par un de ses agents. Il y a une communauté religieuse du côté de Gênes qui est un livre dont on ne connaît pas bien l'histoire et dont cette communauté souhaite se séparer. Et on le fait immédiatement, on met au mal, entre guillemets, on informe au mal. Et au mal, quand il voit le livre, comprend que c'est un livre très important, qu'il est de provenance, entre guillemets, royale, quasiment. Et c'est là que son œil joue. Voilà, il est capable, alors que ce livre n'a pas une provenance très précise, il le voit en le contemplant, parce que bon, c'est vraiment, c'est pas le collectionneur qui fait un placement au mal, hein, c'est un homme qui a un amour profond et sincère du livre. Il écrira lui-même le catalogue de ses manuscrits, et, voilà, il passera des heures entières à travailler dans sa bibliothèque. Voilà. Donc il a cet œil, et c'est ça qui lui permet de mettre la main sur ce manuscrit, qui est aujourd'hui un des plus connus et un des plus beaux, et qui effectivement, bon, moi j'ai eu la chance de le... Je rassure nos auditeurs, je ne vais pas la nuit le feuilleter nuitamment dans les coursives de la bibliothèque. Donc c'est un document que j'ai pu montrer dans des occasions tout à fait particulières. Et c'est une expression de la grâce. Voilà. C'est un chef-d'œuvre fragile, ce qui explique qu'on ne puisse pas le montrer de façon permanente. Donc on le montre à travers un DVD-ROM très, très bien fait, qui permet des zooms et qui permet quand même d'en avoir une idée assez, assez parfaite. Et voilà, c'est un des monuments du patrimoine national, mondialement connu, et lorsqu'on a la chance de le contempler, on mesure, je dirais, sa grande qualité et vraiment l'emblème qu'il représente à la fois pour Chantilly et pour l'humanité, en définitive. C'est vraiment une des œuvres les plus précieuses de l'humanité. Et bon, je pourrais vous en parler, on pourrait faire une émission complète sur les trahisseurs. Sachez simplement bon, qu'il s'agit d'un livre d'heure, donc qui sont ces livres de piété à destination des laïcs, qu'il a été commandité par Jean de Berry. Donc, la partie la plus célèbre de ce manuscrit, c'est son calendrier. Ce sont grosso modo les 20 premières pages qui figurent les 12 mois de l'année, avec des enluminures très, très célèbres, très connues, qui représentent des scènes de chasse, des travaux des champs. Voilà, on a tout ça dans le... Ce sont des images qu'on a tous dans notre inconscient, dans notre imaginaire collectif, un petit peu rafraîchi par des films comme Les Visiteurs du Soir. Voilà, tout ça se tient un petit peu. Mais c'est un livre beaucoup plus complet, au-delà des pages très célèbres du calendrier. Et c'est un livre aussi très mystérieux. Il a été étudié en long, en large, en travers. On a fait des radios, on l'a examiné sur toutes ses coutures. Mais c'est un livre à la fois magnifique, abouti, achevé, et puis il a des pages encore inachevées. Il y a une page qui représente un plan de Rome qui n'a pas été terminé. On ne sait pas s'il a été relié dans cet ordre. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères et beaucoup de choses qu'on ne sait pas autour de ce livre. Qui a vu se succéder, c'est pas quelque chose qui a été fait en quelques semaines, hein. C'est un livre qui a été fait quasiment sur 80 ans. Et trois groupes d'artistes se sont succédés pour sa production. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faudrait pas que cet arbre masque la forêt. On a d'autres choses magnifiques et superbes.
Parlez-nous-en.
Voilà. Donc... Alors, on a toujours coutume de parler du cabinet des livres, hein, qui est naturellement la bibliothèque la plus célèbre. Il y a des bibliothèques à Chantilly. Il y a un autre lieu tout à fait remarquable, qui est la bibliothèque du théâtre, qui se visite, de façon un peu moins facile, mais dans le cadre de la visite des appartements privés, et qui est là la bibliothèque d'études du Duc d'Aumale. Mais je vais revenir un petit peu rapidement sur ce qu'on peut trouver dans le cabinet des livres. Alors, les questions classiques, mais comment c'est rangé ? Alors, c'est rangé par format dans le cabinet des livres, voilà. C'est toujours une réponse un peu décevante, mais la taille des livres est la manière la plus simple de les ranger. Et Aumale a rassemblé là à la fois des livres qu'il a achetés par groupe. Je parlais de la bibliothèque Standish tout à l'heure. Il a acheté aussi une autre bibliothèque importante qui était le fonds Cigogne au XIXe siècle. Et à chaque fois, Aumale mettait le prix, mettait le paquet. Quand il envoyait ses agents qu'il allait lui-même faire une vente...
Il
écrivait même dans la marge de ses catalogues de vente que nous avons conservés à moi. Donc déjà, dans la bibliothèque des Condés, je trouve des choses remarquables. Ensuite, il achète des ensembles tout à fait remarquables aussi. Et puis après, il achète des livres isolés. Le cas des trains à jambes du duc de Berry est emblématique. Hein. Voilà, c'est un livre qu'on lui signale et qu'il achète à la pièce. Ce serait trop long de chaque ouvrage, s'il a sa place dans le cabinet des livres, n'est pas là par hasard. Mais pour donner un petit peu une idée, un petit peu de nos points forts, donc
oui,
on a naturellement, voilà, on a naturellement ces manuscrits enluminés, ces manuscrits à peinture, avec des pièces tout à fait remarquables. Nous avons aussi une collection très importante d'incunables. Donc c'est primitif de l'imprimerie, donc c'est l'époque où l'imprimerie n'est pas une technologie... C'est
avant 1500.
C'est voilà. Ça. C'est une période où la technologie n'est pas encore tout à fait arrêtée, et donc on a des livres qui étaient très recherchés par les collectionneurs, parce qu'effectivement, chaque atelier, ils sont la plupart fabriqués avec des caractères mobiles, mais et notamment en France, il y a des ateliers très célèbres, et donc les collectionneurs, dès le 19e siècle, s'emparent de ces livres. Nous avons des collections de reliures absolument admirables, des collections de provenance aussi, des livres de provenance royale, on a des livres qui ont appartenu à François Ier, à Marie de Médicis, et puis aussi on a parmi ces exemples, c'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant, on a par exemple un atlas qui a appartenu à l'amiral de Coligny, qui est un document très, très beau, avec dans un des plats du livre une boussole. On a un livre très...
Il y a beaucoup de cartes aussi, non ?
Voilà, alors ça c'est plutôt dans le domaine des archives, je vous en dirai un mot. On a par exemple, effectivement dans le domaine des cartes, on a de nombreux volumes avec des cartes. On a une carte qui appartient à Bonaparte. On a notamment dans les documents tout à fait emblématiques du fond, on a un exemplaire des commentaires de la guerre des Gaules qui a appartenu à Montaigne, avec des notes marginales de la main de Montaigne, et une note finale dans au dos du dernier plat. Montaigne a écrit noir sur blanc ses impressions de lecture. Et c'est un ouvrage dont la conservation est assez problématique parce que ses caractères tendent à s'effacer. Les encres de l'époque n'étaient pas aussi permanentes que celles d'aujourd'hui. Et quand j'ai eu le plaisir d'accueillir à la bibliothèque le philosophe Georg Steiner, c'est ce philosophe de cette culture fragile et fugitive, c'est l'ouvrage que nous avons choisi de lui montrer pendant cette visite. Et on a des choses très très des témoignages historiques très très curieux, très très inédits. On a par exemple un petit livre de piété qui a été relié avec les cheveux de Charles Ier d'Angleterre, donc le malheureux roi qui a été décapité, et donc sa femme qui était la sœur d'Henri IV a fait relier un livre qui lui appartenait avec ses cheveux. Voilà. On a des choses extrêmement diverses, variées, je dirais dans le paysage documentaire français, la bibliothèque de Chantilly est un lieu véritablement remarquable par ses collections, leur diversité, leur richesse. Et c'est un peu une surprise parce que traditionnellement, les belles collections sont naturellement la Bibliothèque nationale, naturellement dans des lieux, dans les universités, quelques bibliothèques municipales. Et là, on a vraiment une collection, je dirais, qui a double titre, au plan historique, parce que finalement, c'est quelque chose qui nous vient en direct, une grande famille aristocratique française qui était les Bourbon-Condé, et puis aussi, je dirais, produit de l'amour et des moyens d'un immense collectionneur. Et pour terminer sur le cabinet des livres, ce qui est tout à fait remarquable dans ce lieu, c'est que c'est un lieu d'un extraordinaire raffinement. Comme tous les raffinements très réussis, ça ne se perçoit pas. Il faut qu'on passe du temps dans ce lieu pour comprendre. Toutes les vitrines sont faites sur mesure. Omal a fait gainer tous les rayonnages métalliques, les a fait gainer de cuir pour ne pas abîmer les reliures. Il faisait beaucoup relier par des artisans de son temps. On a des choses du 19e siècle qui sont très, très beaux. Les Trotz-Bozenay, les Capets, alors ce sont des noms peut-être peu connus du grand public, mais les bibliophiles les apprécieront. Omal faisait travailler aussi beaucoup, beaucoup d'artistes et d'artisans de la reliure dans son temps. Bon, il a regretté après d'avoir fait relier parfois certains livres anciens. Il a dit « j'ai trop fait relier ». Il avait une passion pour des livres parfaits. On dit qu'il a beaucoup lessivé, blanchi certaines pages. Ça se faisait beaucoup aussi à l'époque. Vraiment, il a fabriqué le cabinet des livres, qui est un lieu, je dirais... C'est le rêve du collectionneur. Donc, le livre est important pour Chantilly, mais Chantilly est également un lieu important pour le livre, au plan international, parce que vraiment... Je dirais qu'une collection, c'est l'œuvre d'une vie, et Aumale, par son intelligence, a réussi à rendre permanente cette collection. Puisqu'à travers le legs à l'Institut de France, et des conditions extrêmement restrictives des clauses du legs, c'est-à-dire on ne doit pas bouger les livres, on ne peut pas les prêter, on ne doit pas les transporter, il a garanti que les livres qu'il avait installés là, grosso modo...
Mais on peut les consulter.
Voilà, alors, on ne peut pas les prêter, on ne peut les voir, ce sont des livres qui ne sont visibles qu'à Chantilly. Voilà. Les très riches heures, voilà, vous pouvez être riche à Millions, vous pouvez venir me voir avec un chéquier, non, ça ne se voit qu'à Chantilly. Voilà, le respect, la ligne bleue des Vosges, pour nous, c'est le respect des conditions du legs du duc d'Aumale. Et voilà. Et bon, c'est un personnage qui a vécu en exil, qui a vu ses biens menacés par des saisies, par des séquestres. Donc on comprend qu'il a eu l'obsession de assurer cette permanence. Oui. Voilà, et d'une permanence. Et je veux dire, voilà, aujourd'hui, tous les collectionneurs, s'il y en a qui nous écoutent, savent que bon, ils se posent la question. Et après, après moi, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben Aumale, il a trouvé la réponse et il a réussi son coup. Voilà.
Alors vous avez beaucoup évoqué le cabinet des livres. Il est peut-être temps d'évoquer cette seconde bibliothèque. Moins connue, qui est donc la bibliothèque du théâtre. Si je comprends bien, c'est là une bibliothèque de travail.
Oui, alors, on oublie, alors, Aumale avait ses liens, bon, Aumale a été membre de l'Académie française, il était membre de l'Académie des Beaux-Arts, il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. On évoquait tout à l'heure le soldat, le politique, le fils de roi, le mécène, le collectionneur. C'était aussi un auteur, il a été l'auteur, entendu, d'une histoire des Condés en plusieurs volumes. Voilà, bon, il avait une éducation très solide.
Il n'a pas pu être publié, d'ailleurs, si je ne me trompe
pas. Alors, si elle a, il y a eu, bon, ça n'a pas été très simple, mais on peut...
Elle a fini par être publié,
oui,
mais
voilà.
Au départ, elle n'a pas pu.
Voilà. Il a même une chose assez amusante, il a Aumale dans ses démêlés avec, c'est un peu paradoxe, il était pour un fils de roi, il était peut-être plus ami avec la République qu'avec l'Empire, mais enfin ça c'est une chose que les historiens de la période comprennent aisément. Il avait même eu dans sa stature d'historien, il avait même eu une espèce de polémique avec Napoléon III sur la situation d'Alésia. Voilà, c'est un sujet, vous savez, un peu débattu. Je n'étais pas un spécialiste d'histoire antique, je ne sais pas si c'est une histoire qui a été tranchée encore de façon définitive aujourd'hui, mais Aumale avait rivalisé au plan historique avec Napoléon III sur cette question. Donc tout ça pour vous dire, oui, que Aumale, je dirais, par sa formation... une épaisseur aussi intellectuelle, et qu'à ce titre-là, il avait réuni pour faire simple, dans le cabinet des livres, ce sont les livres de collection, les livres les plus beaux, et la bibliothèque du théâtre, alors qui est un lieu intéressant pour d'autres raisons, il est bien moins majestueux, et les grands amoureux du livre, naturellement, sont amoureux, je dirais, à jamais du cabinet des livres, et on peut considérer la bibliothèque du théâtre comme une bibliothèque secondaire, ce qu'elle est d'ailleurs. Mais dans cette bibliothèque, il a réuni tous ses instruments de travail, aussi de nombreux livres que des candidats pas toujours heureux à l'Académie française lui envoyaient. Donc c'est une espèce de petit musée des autographes. Alors là, il y a à peu près 60 000 volumes, donc c'est une bibliothèque beaucoup plus importante. C'est un lieu aussi assez remarquable. C'est une bibliothèque qui a été construite donc, dans les années 1870-1880, donc avec les meilleures techniques de l'époque. Les caillebotis en fonte, une bibliothèque éclairée, une bibliothèque, un lieu de travail tout à fait adapté. Et donc, on y trouve à la fois des livres hérités des Bourbons-Condés, les livres moins précieux, les livres plus courants. Alors, c'est aussi une bibliothèque qui a été longtemps méprisée parce que, bon, la spécialité des bibliothèques, le livre ancien, ça commence c'est avant 1800. Donc tout ce qui était après 1800, c'était un peu déconsidéré. Bon, naturellement, le temps passe et on tend à reconsidérer un petit peu ces collections. Et donc on y trouve les livres un peu plus courants qu'il avait hérités des Bourbons-Condés. On a notamment surtout les penseurs de la contre-révolution. Il y a beaucoup, beaucoup de livres de ce type dans les fonds du duc de Bourbon. Des livres d'études et de qui servaient au mal dans son travail. Beaucoup de choses autour. C'est une bibliothèque sérieuse. Hein. Il n'y a pas tellement de poésie, un petit peu de littérature, mais assez peu. Beaucoup de choses autour des voyages, beaucoup de choses autour naturellement de l'armée, puisqu'il était un soldat, donc il s'intéressait beaucoup aux techniques.
Oui, et puis c'était un sujet important pour la France à cette époque.
Voilà, voilà. Et puis bon, et c'est un sujet auquel Aumale, bon, la République l'a réintégré dans l'armée, hein, et il a pu finir ses carrières. Donc voilà, c'était une bibliothèque d'honnête général, si je puis dire. Et puis ce petit musée des manuscrits avec des envois. Bon, Je crois que Zola a été candidat 37 fois à l'Académie française, donc il a envoyé certains volumes avec des envois, des dédicaces au duc d'Aumale. Et puis on a aussi d'autres parties très intéressantes, peu connues. Alors bon, je ne vais pas lancer un appel aux chercheurs, mais si certains s'intéressent au théâtre révolutionnaire, on a des fonds très intéressants là-dessus, des petits libelles, des choses très... Il y a une espèce de floraison de publications de très diverses qualités à l'époque, et on a beaucoup de choses là-dessus. C'est souvent des choses qui se sont perdues, qui n'ont pas toujours été gardées dans la bibliothèque. Donc on a un fonds très important là-dessus. On a un fonds de Mazarinade aussi, très complet. Voilà, il y a encore des tas de choses à découvrir, y compris dans cette bibliothèque du théâtre, qui est un gisement quasiment inépuisable, parce que Chantilly, quand on ajoute ces deux bibliothèques, est une bibliothèque véritablement encyclopédique, dans laquelle on peut documenter des sujets extrêmement divers. Et c'est un des charmes de ce lieu.
Il faudrait peut-être aussi parler d'un troisième lieu, c'est la salle de lecture.
Alors, effectivement, Chantilly est une bibliothèque de plein exercice. C'est-à-dire que, on parle toujours du musée Condé, à raison d'ailleurs, mais lorsque Aumale lègue ses collections à l'Institut de France, il pense naturellement à faire ouvrir un musée, c'est-à-dire il veut que ses trésors, ses tableaux, ses dessins soient vus par le public. Mais il souhaite que sa bibliothèque aussi soit ouverte. Alors, ouvrir sa bibliothèque, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ? Ça veut dire ouvrir une salle de lecture où on puisse accueillir, accueille...
Surtout s'il est prévu de ne pas prêter les livres.
Voilà, donc...
C'est ça de pouvoir les consulter.
Voilà, donc Aumale, déjà de son vivant, accueillait, je dirais, les gens qui s'intéressaient... Bon, la recherche n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais... il avait un commerce extrêmement suivi avec des savants, notamment sa présence, son appartenance à plusieurs compagnies académiques, en témoigne, il l'a conduit. Mais il a souhaité, je dirais, pérenniser, et c'est une des missions aujourd'hui de la bibliothèque de Chantilly. Hein. Quand on conserve la bibliothèque de Chantilly, naturellement, on s'assure que les conditions d'hygrométrie sont les bonnes, que les livres sont en sécurité, mais c'est aussi communiquer cette collection à des lecteurs, des chercheurs, des universitaires qui viennent parfois de très loin. Demain, j'accueille un chercheur italien qui vient consulter un de nos manuscrits les plus précieux. Et voilà. Et donc, nous sommes une bibliothèque de plein exercice, c'est-à-dire que nous accueillons à peu près entre 700 et 800 lecteurs par an dans une petite salle de lecture qui est l'ancien secrétariat particulier du duc d'Aumale, qui a été transformé en salle de lecture. Et donc, nous offrons tous les services qu'une bibliothèque de consultation publique digne de ce nom peut offrir. Alors, bien sûr, on ne peut pas accueillir, on a à peu près une quinzaine de places dans cette salle de lecture. On n'est pas là pour accueillir, je dirais, les curieux, on est là pour accueillir des chercheurs, des gens qui sont dans des démarches de recherche universitaire ou scientifique ou artistique, et on leur communique nos collections.
Vous voulez dire, il faut être accrédité,
absolument.
On doit faire état de son projet.
Voilà, on fonctionne comme une bibliothèque de recherche. Je crois qu'à ce micro, dernièrement, le conservateur de la Mazarine... A pu évoquer les conditions d'ouverture de ce fonds. Alors bon, on est naturellement différent de la Mazarine, qui est une bibliothèque publique. Nous, on est plutôt ce qu'on peut appeler une bibliothèque de recherche. Le duc d'Aumale, notre bienfaiteur dans son legs, a souhaité que nous puissions communiquer aux chercheurs et aux universitaires nos collections. Ce que nous faisons, voilà, ça fait partie de notre mission aussi.
Alors, dans le même ordre d'idées, celui des possibilités offertes pour consulter ces ouvrages, et aussi en termes de conservation, est-ce que l'entrée dans l'ère numérique ne va pas changer la donne ? Vous parliez des livres dont l'encre se dégrade, il y a aussi des difficultés d'offrir au public la consultation des ouvrages les plus précieux. Est-ce qu'il y a un raisonnement ou des actions qui sont entreprises de ce point de vue-là ?
Alors c'est un véritable défi pour une bibliothèque comme celle de Chantilly. Chantilly, c'est l'œuvre d'art totale. Hein. C'est le château de Chantilly, ce sont les grandes écuries, c'est le château, une collection de dessins, d'œuvres d'art, une collection de livres, une collection d'archives. Mais nous sommes deux conservateurs pour garder tous ces trésors. Un qui s'occupe du musée, ma collègue Nicole Garnier, que je salue à ce micro, et moi-même, donc en charge de la bibliothèque et des archives. C'est bien, mais c'est peu. Quand on est aujourd'hui confronté à une évolution des technologies telles que celles que connaissent les bibliothèques, la numérisation, la dématérialisation, nous devons rester à la page. Alors, la bibliothèque de Chantilly est à la page. Elle a connu des périodes, je dirais, plus difficiles par le passé. Bon, il y a eu des périodes où il n'y avait pas de professionnels des bibliothèques à Chantilly. Depuis le début des années 2000, ça n'est plus le cas. Et Chantilly est aujourd'hui aux normes documentaires, nationales. C'est-à-dire que tout son fonds est inventorié, que son catalogue est en ligne. Alors, je ne dis pas que les œuvres sont en ligne, pas toutes, mais que son catalogue est en ligne. Et c'est un boulot, c'est un travail considérable qui a été effectué par mon prédécesseur, Emmanuel Toulet, qui a trouvé une bibliothèque qui était aux normes de 1920 et qui, quand elle a quitté ses fonctions, a laissé une bibliothèque aux normes de 2010. Et donc, ce travail a été fait. Donc, quand on veut numériser, ça ne sert à rien de vouloir numériser si les inventaires, si les catalogues en ligne ne sont pas existants. Donc ça, c'est fait à Chantilly. Et des opérations de numérisation ont été conduites. Alors, c'est aussi compliqué pour une bibliothèque comme Chantilly, parce que pour pouvoir numériser un manuscrit qui fait à peu près une centaine de pages, qui comporte une vingtaine d'images, il faut une infrastructure, il faut une bibliothèque numérique, il y a des questions de droit très importantes. Donc nous nous sommes lancés dans cette voie. Nos manuscrits enluminés ont été intégralement numérisés. Ils sont consultables pour les chercheurs dans un centre de recherche à Paris qui s'appelle l'IRHT, l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Et nous avons le projet de créer une infrastructure beaucoup plus globale, qui soit, pour faire très simple, le Gallica, l'Europeana, qui sont le nom des bibliothèques numériques de la BNF, de l'Institut de France et de ses bibliothèques et de ses centres documentaires. Donc nous sommes engagés dans cette voie, c'est une voie longue, coûteuse, mais c'est un enjeu de...
Exaltante aussi.
Exaltante, mais c'est un enjeu de modernisation dont on ne peut pas faire l'économie. Et c'est encore plus difficile quand on est une petite structure qui est la partie d'un tout dont les objectifs sont un peu différents. Mais nous sommes en bonne voie, on a réalisé de façon continue de la numérisation d'ouvrages. Et par exemple, je parlais tout à l'heure de bibliothèque de plein exercice, c'est-à-dire que nous accueillons du public, nous accueillons des chercheurs, nous faisons aussi des expositions. La plupart de nos expositions, enfin la totalité des expositions que nous avons réalisées ces dernières années, ont été mises en ligne, ou vont être mises en ligne dans un avenir très très proche. Et ça permet donc d'offrir à distance les services. Mais bon, ça ne vaut pas la visite à Chantilly, ou entre guillemets le voyage de Chantilly qui est un événement. Mais en tout cas, pour le service aux chercheurs, on fait du renseignement bibliographique par mail. Voilà, on est extrêmement réactif et en tout cas, on s'efforce de l'être.
Puisque vous parliez de la nécessité de se rendre toutefois à Chantilly pour profiter de la magie des lieux. Nous le disions en introduction de l'émission, il y a deux occasions actuellement, sous la forme de deux expositions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter de façon plus approfondie, surtout celle dont vous êtes plus précisément responsable, c'est-à-dire celle issue des archives?
Alors, Chantilly est une destination touristique. Là, aujourd'hui... Le temps s'y prête, j'invite tous nos auditeurs à se rendre à Chantilly.
Le temps s'y prête surtout à se promener dans le parc.
Voilà, parce que d'abord, quand on va à Chantilly, alors on peut y venir pour admirer la bibliothèque et son exposition, j'en dirai un mot dans quelques instants. Mais Chantilly aujourd'hui est une destination touristique, au même titre que Fontainebleau, au même titre que Versailles. Et quand on va à Chantilly, effectivement, on peut voir énormément de choses. Vous évoquiez à dessein et avec justesse le parc. Les collections permanentes du musée, les collections de peinture sont tout à fait remarquables. Les expositions, je vais en dire un mot dans quelques instants, sont là aussi là pour drainer de façon régulière un public. Il y a aussi dans les grandes écuries le spectacle des écuyères de Sophie Bien-Aimée et son nouveau spectacle qui s'appelle Cavalisté, que je recommande. Donc voilà, donc, comme dit le guide Michelin, vaut le voyage. Voilà. Concernant effectivement les expositions de printemps, Le musée propose une exposition qui s'appelle « D'or et d'argent » sur les ordres et les décorations des derniers propriétaires de Chantilly, donc les Bourbon-Condé et les décorations du duc d'Orléans. Et effectivement les décorations du duc d'Aumale. Et nous, à la bibliothèque, on s'est attaché à mettre en lumière un fond qui est... Alors si la bibliothèque du théâtre est dans l'ombre du cabinet des livres, il y a encore dans l'ombre de l'ombre les archives.
Voilà,
on a un fond d'archives absolument remarquable à Chantilly. Des archives qui sont à la fois le témoignage des différents propriétaires du château, depuis les Montmorency jusqu'aux Condé, les Bourbon-Condé, jusqu'aux Orléans. Aumale, qui était ce personnage très complet, s'est soucié de ses archives. Il les a fait classer. Le cœur précieux de la collection, c'est quand même 80 000 lettres qui sont intégralement reliées, montées sur onglets. Donc Aumale a investi beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour valoriser aussi ses archives. D'habitude, les archives, vous savez, c'est des liasses mal propres ou des boîtes un peu à l'abandon. Là, il leur a donné véritablement une importance considérable. Et c'est d'ailleurs une, entre guillemets, dans la destination, les gens que nous recevons en salle de lecture, il y a à peu près la moitié de nos lecteurs qui viennent pour nos archives. Soit qui cherchent effectivement, qui soient des historiens, qui travaillent sur une période donnée. Par exemple, on a des archives très importantes sur l'immigration, sur l'armée de Condé, donc c'est cette armée qui s'est levée, enfin, en tout cas, qui a combattu contre la Révolution. Bon, alors, ce sont des thèmes un petit peu, comment dirais-je, qui relève plutôt de la contre-programmation aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, on a ces témoignages, parce qu'Aumale, quand il a hérité de Chantilly, a souhaité aussi conserver cette mémoire, la mémoire des combattants, je dirais, royalistes. Donc on a ces fonds d'archives, on a des choses absolument remarquables. Hier, j'avais une visite de libraires d'anciens, de la Ligue internationale des libraires d'anciens, et je leur ai montré beaucoup de choses, et notamment dans les archives, une lettre... De Louis de Bourbon-Condé de d'août 1789, où on voit toute la clairvoyance et l'intelligence de cet aristocrate face à la révolution qui arrive et qui monte. Voilà, donc des témoignages historiques très, très importants. Dans l'exposition que nous présentons aujourd'hui dans le cabinet des livres, donc, qui s'appelle « Aumale secret », archives inédites de Chantilly, nous avons souhaité montrer des pièces d'archives dont nous avons fait l'acquisition ces trois dernières années. Donc, il est difficile d'acheter des livres pour Chantilly, parce que on n'a pas d'ailleurs naturellement les moyens qu'avait le duc d'Aumale en son temps. Et puis, voilà, c'est une collection qui est complète, qui n'a pas vocation à s'enrichir. Elle est terminée, elle est finie. Par contre, dans les archives, il y a encore des éléments qui peuvent nous manquer. Il y a encore des fonds qu'on a intérêt à faire entrer chez nous. Ce sont ces documents que nous montrons dans le cabinet des livres. Je citerai deux ensembles principalement. On a par exemple une proclamation manuscrite que le duc d'Aumale a écrite en février 1848, au moment où il est gouverneur général de l'Algérie et où il est en train de renoncer au pouvoir. Et c'est une lettre que nous avons achetée dans la dispersion récente de la bibliothèque de Dominique de Villepin. Donc vraiment un document historique qui manquait à nos collections et que nous avons acheté à ce moment-là, donc qu'on peut découvrir dans le cadre de l'exposition « Aumale secret », et qu'on a mis en contexte, parce que bon, voilà, c'est assez...
Oui, c'est un moment clé dans la vie du duc d'Aumale.
C'est un moment clé dans sa vie, c'est un moment dont il est l'acteur, ou en tout cas au plan de la rédaction, voilà, il écrit son propre... Voilà, il met en mots son propre renoncement, et puis c'est un moment aussi important pour l'histoire de France, hein, c'est pas pour rien que c'était dans la collection de Villepin, qui avait collectionné comme ça des documents... signifiant. Et puis on a un ensemble très intéressant. Alors c'est ce qui justifie un petit peu le... Alors il faut dire que ce moment de l'exil est un moment. Ça justifie un petit peu ce titre d'Aumale secret, parce qu'Aumale, quand il part de l'Algérie en 48, ils vont se réfugier en Angleterre, mais ils sont pas sûrs d'aller en Angleterre parce qu'ils ont peur que l'Angleterre déclare la guerre à la France. Les Orléans n'ont pas envie de se retrouver résidant dans un pays belligérant avec la France. C'est extrêmement compliqué. Et on a.
Oui, car à travers tous ces soubresauts, l'amour pour la France perdure chez le duc d'Aumale.
Voilà, ça c'est vraiment une ligne de conduite. Et on a quelques passages, des lettres qu'on montre où Aumale pense qu'il va immigrer aux États-Unis et se consacrer et devenir agriculteur. Voilà, donc c'est des moments un petit peu...
Le monde se dérobait sous ses pieds.
Voilà, exactement. Donc on voit, je dirais, noir sur blanc, le drame se nouer. Une petite parenthèse d'ailleurs sur ces moments d'exil. C'était une phrase qui était rapportée par quelqu'un qui était un aristocrate russe qui avait été conduit à s'exiler après la révolution de 1917. Il disait, oui, on pensait que ça allait durer quelques semaines. Et ça a duré 60 ans. Voilà. Et, voilà. Et pour Omal, c'était pareil. Voilà. Ça a duré plus longtemps que prévu. Et puis, un autre ensemble que nous montrons et qui vraiment justifie le titre d'Omal secret, nous avons acheté en vente aux enchères un fonds qui était le fonds de Laplagne Baris. Raymond Lacave Laplagne Baris, alors qui est un personnage complètement oublié aujourd'hui, qui était un des piliers de la monarchie de Juillet et de la Seconde République et du Second Empire, qui était un président de la Cour de cassation et qui était en fait, donc jusqu'en 48, officiellement, le directeur de il était l'administrateur des biens du duc d'Aumale. Donc c'était le cerveau des affaires du duc d'Aumale. Donc, on a récupéré ce fonds suite à une vente, enfin de la dispersion des archives de cette famille qui a vendu un château dans le sud-ouest. Et ce fonds est passé en rente publique et nous l'avons acquis. Et on a un fonds considérable qui, je pense, quand il sera étudié à fond, va renouveler véritablement la vision autour du duc d'Aumale. Et on montre des pièces qui touchent à la fois sur les difficultés qu'a eu Aumale à entrer en possession des biens du duc de Bourbon. C'est une succession très contestée. Le duc de Bourbon est mort dans des circonstances un petit peu troubles. On a dans ce fond des pièces qui font beaucoup penser à un chantage. Des Condéens qui prétendent avoir des copies d'un autre testament qu'aurait fait le duc de Bourbon, bien naturellement défavorable à Aumale. Donc on montre des pièces de ce type. Et Laplagne Baris, par définition, avait connaissance et copie de tous ces éléments. Et puis on voit comment aussi Aumale a surmonté deux moments extrêmement difficiles. Le premier moment difficile, c'est l'exil et le séquestre mis sur ses biens. Parce que, bien sûr, lorsque les Orléans sont déposés, tous les biens de la couronne, les biens de famille sont saisis, mais aussi les biens d'Aumale, alors que ce sont des biens personnels, puisqu'il en a hérité, je dirais, d'une autre façon. Et on voit de quelle façon il se débat, il se dit comment me faire bien voir de l'administrateur provisoire nommé par la République. Donc toute cette phase extrêmement sensible. Et la deuxième phase sensible, c'est au moment où il est obligé de vendre tous ses biens, et notamment la manière dont il a réussi à vendre Chantilly à des prête-noms anglais. Donc on voit véritablement comment il surmonte ses difficultés. C'est très intéressant. Et
le stratège financier après le
Exactement.
Stratège militaire.
Et voilà, alors, parce que bon, donc il se retrouve en exil. À partir de 1852, il est obligé de vendre tous ses biens fonciers, ses biens immobiliers en France. Et donc sa stratégie de réinvestissement, alors on a des lettres où il explique qu'il préfère réinvestir dans des lieux sûrs, le royaume des deux Siciles, la Hongrie, bon... L'histoire l'a un petit peu contredit, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas connues, des choses qui voilà sont remises en lumière aussi. On a dans ce fond des détails sur la manière dont Aumale, aussitôt que les années 1840, voyait Chantilly, comment il s'inspirait de tableaux historiques pour faire la décoration, là, redécorer le château. Voilà, des choses très importantes aussi autour de l'achat du Zucco. Le Zucco qui est cette propriété sicilienne qu'Aumale a acheté immédiatement après la fin après l'exil. Il avait besoin d'avoir un placement. Et ce sont les Rothschild de Naples qui l'ont aidé à faire cette acquisition. Alors c'est amusant, on a tout le détail de cette acquisition et plein de détails là-dessus. Voilà. Donc à qui s'intéresse, je dirais, à la vie d'Aumale, mais aussi à la vie d'un homme riche, et à la vie un petit peu tourmentée, politiquement tourmentée, va découvrir des choses un peu nouvelles et un petit peu inédites dans cette exposition.
Oui, car sa vie tire du roman, et à la fois du roman personnel et du roman national.
Oui, puisqu'on a aussi dans cette exposition des pièces qui sont des pièces tirées d'une correspondance qu'il avait avec le vicomte de Rézay, qui était un de ses amis. C'est une correspondance qui s'échelonne à peu près sur 30 années, et c'est vraiment le leitmotiv, c'est vraiment sans cesse la France. Voilà.
Merci Olivier Bosque, vous avez en tout cas réussi à nous transmettre votre passion pour ce lieu d'exception.
Attention, elle est contagieuse. Hein.
Elle l'est, je viens de contracter la maladie, j'espère la diffuser à mon tour le plus largement possible, car c'est un lieu qu'il faut en effet découvrir, redécouvrir, pour s'en imprégner, comme vous l'avez fort bien dit. À cette occasion, je voudrais que vous nous précisiez les dates des deux expositions dont nous avons parlé, car tant qu'à aller à Chantilly, autant profiter également de ces deux expositions.
Voilà. Donc l'exposition Au Mal Secret se tient dans le cabinet des livres du 6 avril, donc ça a commencé jusqu'au 8 juillet. Quant à l'exposition d'or et d'argent, elle se poursuit, elle, jusqu'en septembre. Bon, c'est un peu l'infériorité des bibliothèques sur les musées, parce que les pages des livres, les pages des documents graphiques s'abîment un peu plus rapidement la lumière, donc nous avons un délai de 3 mois uniquement. Et le domaine est ouvert de 10h à 18h, tous les jours. Le Chantilly, comme vous le savez, se trouve au nord de Paris, très facilement accessible en train ou en voiture, et nous aurons plaisir à y accueillir nos auditeurs.
Merci beaucoup Olivier. De fait, la période s'y prête, car vous pourriez aujourd'hui profiter à la fois d'un magnifique jardin à la française, dont Jean-Pierre Bablon nous disait que c'était son préféré en France, dans une précédente émission, et profiter aussi de la fraîcheur et de la pénombre plus secrète et de toute l'aura de mystère du cabinet des livres et peut-être aussi de la bibliothèque du théâtre si elle est ouverte à la visite.
Dans le cadre de la visite des petits appartements.
Voilà. Merci beaucoup Olivier.
Merci. Thank you.